sentiment à d'immenses oreilles. Pourquoi ? Épais mystère. Celles de ses parents sont tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Du côté de ses 7 frères et sœurs, aucun n'en a de semblable. Une terrible injustice. Il est le seul à être né avec 2 belles feuilles de chou. Quand Sigismond se regarde dans une glace, il les juge.
Grotesque, gigantesque, en un mot comme en mille, abracadabrantesque.
Il sait bien que tous ceux qui les aperçoivent pour la première fois ont un avis identique au sien. La preuve, quel que soit l'endroit où ils se trouvent, chez lui, à l'école, au jardin public, dans la rue, il y a toujours quelqu'un pour se moquer de cette maudite paire d'oreilles qu'il ne parvient même pas à cacher sous une casquette. On lui dit des choses comme ça.
Avec tes nageoires, tu dois être un champion de natation.
De quelle planète venez-vous, monsieur l'extraterrestre ?
Et que verse-t-on dans ces 2 grands entonnoirs ?
Ses oreilles, Sigismond aimerait bien les échanger.
Oui, mais qui en voudrait ?
S'il pouvait rencontrer quelqu'un comme lui, il se sentirait moins isolé.
Mais est-ce qu'il existe seulement une personne dans le monde qui me ressemble ?
La question se met à tourbillonner dans sa tête, jusqu'à ce que ça devienne aussi insupportable qu'un caillou dans un soulier. Pour tirer cette affaire au clair, Sigismond se rend à la bibliothèque la plus proche pour y faire des recherches. Il consulte des dictionnaires, des encyclopédies, des atlas, des livres qui pèsent terriblement avec tout ce que des savants ont entassé dedans.
Lapin, lièvre, âne, éléphant, rien d'autre à la rubrique « grandes oreilles ».
Après de longues heures passées à feuilleter des dizaines de pages sans succès, Sigismond tombe par hasard sur un livre ancien et poussiéreux, « Voyage au pays des hommes sauvages ». L'auteur raconte qu'il a découvert une lointaine contrée où les habitants ont des oreilles qui pendent jusqu'aux genoux. Un large sourire se dessine sur le visage de Sigismond.
Il y aurait donc des gens pour qui ce serait pire que pour moi.
Mais l'auteur ajoute tout de suite après que ses habitants possèdent également un seul pied qui leur sert de parasol, ainsi qu'une bouche tordue au beau milieu de la poitrine. Sigismond referme le livre avec un haussement d'épaule.
Celui qui a écrit ça ne peut être que le roi des menteurs.
Heureusement, avoir de grandes oreilles n'a pas que des inconvénients. Sigismond entend ce que personne d'autre que lui ne pourrait même soupçonner. Qui connaît le bruit que fait ?
Une feuille morte quand elle tombe par terre.
Qui perçoit distinctement ?
Le battement d'ailes d'un papillon qui traverse le pré.
Qui a jamais entendu ?
Le froissement des pétales d'une rose lorsqu'elle s'ouvre.
Personne d'autre que Sigismond. C'est pour cela qu'il aime s'asseoir au milieu de la nature, autour de lui.
Ça craque et ça crisse en miniature, ça grince et ça bruisse en minuscule.
Il appelle ça le chant qui monte du monde.
Le vent lui souffle des secrets à l'oreille. Les arbres frissonnent en lui racontant des histoires qui font un peu peur. Les herbes sèches lui chuchotent des confidences tout en se balançant. Le ruisseau lui murmure des souvenirs qui remontent à la source.
Un vrai concert, une symphonie, que n'entend que Sigismond. Une nuit d'hiver, il s'est brusquement redressé sur son lit.
Des flocons de neige en tombant sur les toits
venaient de le réveiller en sursaut. On croit que le silence règne sur la ville quand tout le monde dort. C'est faux. C'est le moment que choisissent les petites bêtes pour faire du tapage nocturne aux oreilles de Sigismond.
Un souriceau lisse ses moustaches dans un coin du grenier. Une araignée tisse sa toile au plafond. Un ver ronge le bois d'un vieux meuble. Un chat se glisse sur la gouttière du toit en faisant patte de velours.
Il y a cependant une chose que Sigismond n'aimerait jamais avoir entendue. Le bruit que fait en secret le chagrin.
Les sanglots qu'on essaie de retenir.
les mots qui restent coincés en travers de la gorge, les cris qu'on garde en dedans et qui vous étouffent.
Cette nuit, précisément, à l'étage du dessous, ses parents se querellent une fois de plus. Ils le font à voix très basse, mais en parlant tous les deux en même temps, sans s'écouter, comme si c'était boucher les tympans avec les mains. C'est pour cette raison qu'on dit de deux personnes qui se disputent tout le temps qu'elles ne s'entendent pas bien.
Sigismond s'est réfugié au fond de son lit, pour ne pas penser aux mots que ses parents se jettent à la figure, même si c'est en chuchotant. Il préfère se souvenir du chant qui monte du monde. Il se demande quelle sorte de musique fait la terre en tournant sur elle-même.
Imagine. Ses oreilles glissent dans son dos et se transforment en ailes, des ailes immenses et majestueuses. Il peut voler très haut maintenant, par-dessus les villes, par-dessus les champs. Tout semble si petit quand on prend de la hauteur. Sigismond suit le cours des rivières, puis des fleuves, et il rejoint enfin l'océan. Il plane au-dessus des vagues qui courent comme les doigts d'un musicien sur les cordes d'une harpe.
Les oiseaux de mer lancent des notes de flûte, de hautbois, de clarinette ou de basson. Tout en bas résonne la corne de brume d'un navire, tandis que la brise marine siffle en faisant ses gammes.
Sigismond tourne encore plus haut, plus haut. Soudain,
coup de cymbale, roulement de tambour.
Puis plus rien. Le silence. L'horizon s'illumine de mille éclairs et la terre devient une boule bleue qui flotte dans un ciel noir, tout piqueté d'étoiles. Sigismond tend l'oreille.
Un son étrange, une sorte de chuchotis qui viendrait de très loin, un bruit de fond à peine perceptible, même pour quelqu'un comme lui.
C'est la première fois que Sigismond entend
la musique que font les astres dans l'univers.
Quel beau son et lumière!
Mais au matin, quand il se réveille dans son lit, il a envie de pleurer. Ses grandes oreilles ont retrouvé leur place de chaque côté de son visage.
Quand ils se rendent à l'école, les frères et les sœurs de Sigismond préfèrent garder prudemment leur distance avec lui. Ils s'en méfient. Comment faire confiance à quelqu'un qui peut tout entendre? Même le plus petit des secrets qu'on partage entre soi.
On ne peut jamais être sûr que Sigismond ne va pas tout répéter aux parents.
Chaque jour, il fait donc seul le trajet de l'école, tandis que ses sœurs et ses frères marchent loin devant lui. Les mots qu'il voudrait leur dire à ce moment-là, il est obligé de les tenir enfermés. Ils lui restent sur le cœur. Ils finissent par s'y bousculer comme un troupeau en pleine débandade. Certains de ces mots sont petits, gentils, doux, mais il y en a également des gros, des durs, et d'autres qui sont aussi tranchants que la lame d'un couteau.
Impossible de les surveiller tous.
Évidemment, certains parviennent à s'échapper. Sigismond se met alors à leur courir après au beau milieu de la rue. Mais quand un mot est lâché, est-ce qu'on peut le rattraper? Sigismond se conduit de façon de plus en plus bizarre. Ses frères et sœurs commencent à le prendre pour un fou. Par chance, voilà qu'un beau jour, Sigismond rencontre Marthe, une nouvelle petite voisine. Elle aussi se rend seule à l'école. Elle ne connaît encore personne dans le quartier et les enfants qui y habitent n'ont pas envie d'aller vers elle puisqu'ils ne la connaissent pas. Ce jour-là, c'est donc elle qui fait le premier pas et demande à Sigismond s'il veut bien aller son chemin en sa compagnie.
Marcher à deux, c'est beaucoup mieux.
Le cœur de Sigismond se met à battre si fort dans sa poitrine qu'il a peur qu'elle puisse l'entendre. Mais non, il n'y a aucun récit. Marthe a des oreilles normales. Enfin, pas vraiment.
Elles sont bien plus mignonnes que toutes celles que j'ai jamais vues.
Depuis qu'il l'a rencontrée, Sigismond ne s'est plus jamais rendu à l'école sans Marthe. Pas une seule fois, pendant tous ses trajets, elle ne lui a parlé de ses oreilles.
C'est vrai qu'ils ont toujours mille choses à se raconter, mais Sigismond est rongé par le doute.
Peut-être qu'elle trouve mes oreilles affreuses, atroces, mais qu'elle n'ose pas me le dire. Peut-être qu'elle s'en moque dès que j'ai le dos tourné. Peut-être que...
Le doute, c'est comme un bouton qui vous démange. Vous finissez par vous gratter, même si ça ne peut qu'empirer. Sigismond ne parvient pas à résister. Il faut absolument qu'il pose la terrible question.
Mes oreilles, tu les trouves comment ?
Marthe les examine attentivement, comme si elle les avait jamais remarquées auparavant.
Elles me font penser à des grands coquillages, ceux dans lesquels on entend la mer.
Sur ces mots, elle s'approche de lui comme si elle voulait écouter le bruit des vagues à l'intérieur d'une des oreilles de Sigismond. Mais au lieu de cela, elle dépose un baiser sur sa joue. Et ça fait le petit bruit le plus doux qui puisse exister. Ils se remettent aussitôt en route, sans prononcer une parole. Ils n'en ont pas besoin pour savoir ce qu'ils pensent l'un et l'autre.
Marcher à deux, c'est vraiment mieux.
Des années ont passé. Sigismond et Marthe ont grandi en continuant tranquillement leur chemin. Un seul et même chemin pour tous deux. Marthe est devenue une pianiste célèbre, ce qui fait le bonheur de Sigismond, qui passe des heures à l'écouter quand elle répète un concerto. Comme un bonheur n'arrive jamais seul, ils ont eu à leur tour des enfants, mais aucun d'entre eux n'a hérité des oreilles de Sigismond. Il en est heureux, un peu déçu peut-être aussi. Il lui faut se rendre à l'évidence. Personne d'autre que lui ne possédera jamais de pareilles feuilles de chou. C'est désormais sans importance. On ne s'en moque plus. Sigismond est un monsieur bien comme il faut, que tout le monde salue dans la rue. Il porte un beau costume sombre, une cravate à pois, des lunettes rondes et une barbe bien taillée. Ce qu'il fait, il est médecin. Un médecin d'un genre un peu spécial. Cet après-midi-là, une dame est entrée dans le cabinet de consultation où Sigismond reçoit ses patients. Elle tient par la main une fillette qui garde son visage baissé comme si elle ne voulait pas qu'on puisse le voir.
Bonjour docteur, je viens pour ma fille. Je suis très inquiète. Elle ne mange plus, ne dort plus, ne rit plus. Et le pire, c'est qu'elle ne veut plus aller à l'école. Elle dit qu'on se moque d'elle. C'est à cause de son nez, je crois.
La fillette est assise dans un fauteuil un peu trop grand pour elle. Elle ne dit rien. Ses jambes se balancent dans le vide. Et elle regarde ses chaussures, comme si elle espérait qu'elles allaient soudain se mettre à marcher toute seule et la tirer de cet endroit-là. Tout ça, le docteur Sigismond, pour attirer son attention. La fillette lève des yeux immenses et tristes. Sigismond lui sourit. Il se cale au fond de son fauteuil, met la main sur son carnet et son crayon et dit d'une voix très douce, aussi douce que le chant qui monte du monde.
Alors, ça ne va pas ? Raconte-moi tout. Prends ton temps. Je t'écoute. Je t'écoute très attentivement. Tu vois, j'ouvre tout grand mes grandes oreilles.
Sigismond Shlomo Freud est né en 1856 à Freiberg, en Moravie. Il est l'aîné de 7 frères et sœurs.
Sa famille, très pauvre, s'installe à Vienne, en Autriche. Sigismond est un élève brillant. Il entame des études de médecine. À 22 ans, il change son prénom en Sigmund. Devenu médecin, il invente la psychanalyse, une méthode où l'on écoute les gens pour les aider à aller mieux. On leur demande pour cela de raconter leurs souvenirs d'enfance, leurs rêves. Cette méthode sera connue dans le monde entier et le rendra célèbre. Mais parce qu'il est juif, Sigmund Freud est obligé de quitter Vienne. Les nazis qui veulent exterminer les juifs menacent toute sa famille.
Sigmund Freud trouve refuge à Londres en juin 1938. Il y meurt le 23 septembre 1939, à la veille de la Seconde Guerre mondiale.